Seigneur, merci encore de ce que tu veux dire, Seigneur, à travers les paroles de Christelle. Merci de l'inspirer encore et que ton Saint-Esprit puisse la conduire, Seigneur, dans ce qu'elle a à nous dire ce matin. Amen.
Bonjour à chacun et chacune, et merci à toi Alex et à l'équipe de Louange pour cette première partie. Ce week-end de solstice d'été est aussi un week-end de fêtes diverses. Alex nous a déjà parlé de la fête des pères et je souhaite vraiment de tout cœur une bonne fête à tous les papas qui se trouvent parmi nous. Vraiment que notre Père Céleste vous bénisse et vous encourage. C'est aussi la fête de la musique et c'était aussi vie dans la ville hier. Et donc j'ai pensé pour aujourd'hui à un récit de fête qu'on trouve au deuxième chapitre de l'évangile de Jean, celui d'un mariage qui a lieu à Cana en Galilée et où sont invités Jésus et ses disciples. Un épisode qui est unique dans la Bible parce qu'on le trouve que dans l'évangile de Jean et qui constitue en fait le premier des sept signes que Jean va rapporter dans son évangile, parce que Jean ne parle jamais de miracle, mais il parle de signe, c'est-à-dire de quelque chose qui renvoie à une réalité encore plus grande, encore plus importante. Et si les autres signes que Jean va nous raconter nous parlent de malades guéris, de marche sur les eaux, de pain multiplié et même d'un mort ressuscité, ici rien de tout cela, juste un mariage où le vin manque. Et ça peut paraître presque un peu indécent de parler ainsi de fête au regard des souffrances de l'époque et ô combien de notre monde aujourd'hui. Pourtant, ce premier signe, le signe de la fête, est en fait tout un résumé de la vie et de la mort de Jésus. Et Jean va utiliser de nombreux symboles qui sont connus des lecteurs de son époque pour nous dire à travers ce récit qui est Jésus, le Messie, et à quoi ressemble la vie avec lui. Et si on devait résumer en une seule phrase tout ce récit des noces de Cana, je pense que ce serait celle-ci. Vivre avec Jésus, c'est une fête. Une fête qui commence maintenant et qui vient en son temps. Une fête qui nous rend vivants dans nos eaux troubles. Et enfin, une fête où nous sommes invités à croire et à créer. Une fête qui commence maintenant et qui vient en son temps, une fête qui nous rend vivants dans nos eaux troubles, et une fête où nous sommes invités à croire et à créer. Une fête où tu es bienvenu, toi aussi, tel que tu es aujourd'hui, et en particulier peut-être si tu n'as pas le cœur à la fête. Une fête où tu peux aussi venir avec ta tristesse, ta colère, tes peurs, tes désespoirs, tes révoltes, tous tes manques de joie. Une fête aujourd'hui aussi qu'on est invité à vivre sous la chaleur. Donc je rappelle, n'hésitez pas vraiment pendant la prédication à vous hydrater, à vous lever pour prendre de l'eau qui est au fond aussi. Je vous garantis pas qu'elle se changera en vin, mais en tout cas elle pourra vous désaltérer. Et j'ai choisi de vous lire aujourd'hui ce texte des noces de Cana qu'on trouve au chapitre 2 de l'évangile de 1, versets 1 à 11, dans une version très inhabituel. C'est en fait pas directement une traduction, mais ce qu'on appelle une transcription en français. Ça veut dire qu'elle reste très très proche de la langue grecque dans laquelle Jean a écrit son évangile et de la culture juive dont il est imprégné. Et pour la petite histoire, cette transcription, elle a été réalisée par un passionné de l'hébreu et du grec biblique qui s'appelle André Scher et qui habite à Eycourt, à quelques rues de chez moi. Donc je le remercie vivement de m'avoir autorisé à utiliser cette transcription aujourd'hui avec vous et pour tous les éclairages qu'il m'a apportés sur le texte. Alors, j'ai pas fait de PowerPoint aujourd'hui, donc le texte sera pas projeté. Je vous invite aussi à une expérience un peu différente pendant la lecture pour ceux qui le veulent. Vous pouvez simplement fermer les yeux pendant que le texte sera lu pour laisser vraiment résonner en vous tous les mots qui parfois peuvent paraître un petit peu étranges, pour vous imaginer la scène, les événements et puis aussi les différents personnages qui interviennent. Donc, Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Et voici que, le troisième jour, une noce vient à naître à Cana de Galilée, et la mère de Jésus est là-bas. Et Jésus aussi est appelé vers la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin manquant au moment opportun, la mère de Jésus lui dit « Ils ne tiennent pas de vin près d'eux. » Jésus lui dit « Quoi entre moi et toi, femme ? Mon heure ne vient pas encore. » Sa mère dit au serviteur « Ce qu'il vous dirait, faites-le. » Or, il y a là 6 vases à eau en pierre placés là pour la purification des Judéens, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Il leur dit Jésus, remplissez d'eau les vases. Et ils les remplissent jusqu'à la lèvre. Et il leur dit, écopez maintenant et portez-en au maître du banquet, et il lui emporte. Et comme le maître du banquet vient de goûter l'eau vraiment venue à la vie comme vin, et qu'il ne voit pas vraiment d'où il est, mais il voit les serviteurs qui viennent décoper l'eau, le maître du banquet crie le nom du nouveau marié et lui dit « Tout homme met d'abord en place le bon vin, puis quand il se serait enivré le plus court, toi, tu conserves intact le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est ce commencement-là des signes que Jésus fait à Cana de Galilée, et il montre avec évidence sa gloire, et ses disciples appuient leur confiance sur lui. Vivre avec Jésus, c'est une fête qui commence maintenant et qui vient en son temps. Dans ce texte, apparemment, aucune urgence, pas de malade à guérir, de mort à relever, juste une fête en mariage à Cana de Galilée. Pourtant, il y a urgence. Urgence à entrer dans le temps de la fête, urgence à entrer dans un autre rapport au temps. C'est le troisième jour, nous dit Jean, un jour qui renvoie clairement, pour les chrétiens, à la résurrection. Mais si on rembobine jusqu'au début de l'évangile de Jean, qui est en fait construit sur le modèle des 7 jours de la création dans la Genèse, pour signifier que Jésus vient proposer une création nouvelle, un commencement neuf, on se rend compte qu'au fait, au premier chapitre, 4 jours se sont déjà écoulés. Donc le troisième jour, après 4 jours, ça fait aussi le 7e jour, le jour où Dieu se repose de sa création, le jour du Shabbat, qui est encore fondamental dans la tradition juive. C'est donc le 3e jour ou le 7e jour, et une noce vient à naître à Cana de Galilée. Et le mariage, dans la tradition juive, il est en fait directement lié à la venue du Messie. Le Messie qui est considéré comme le fiancé qui vient à la rencontre de son peuple, le peuple d'Israël, la fiancée. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, tous les vendredis soirs, quand ils entrent dans le temps du Shabbat, les Juifs chantent un chant qui s'appelle le chant d'accueil de la fiancée et qui commence par ces mots. « Viens, mon bien-aimé, au devant de ta fiancée, le Shabbat paraît, allons le recevoir. » Et quand Jean nous dit que la mère de Jésus, qu'il ne nomme pas, est déjà là à la noce, il fait en fait aussi référence au peuple d'Israël, le peuple dont Jésus est né. La femme étant souvent chez Jean la figure de tout un peuple. Donc il y a un mariage à Cana et le peuple d'Israël est là, qui attend son fiancé, son Messie, Jésus. Mais au moment opportun, nous disons, le vin manque. Le vin qui, dans la tradition juive, représente la joie des membres d'un groupe et est aussi, lui, directement lié à la venue d'un Messie, un Messie qui, selon les mots d'André Scher, ferait voir l'humanité heureuse. Le vin, dans la tradition orientale, est aussi directement lié à l'amour. Et on retrouve ça, par exemple, dans le superbe poème d'amour de la Bible, Cantique des Cantiques, au verset 2, où la fiancée dit ces mots. « Oui, tes caresses sont meilleures que le vin. » Et j'ai pu moi-même avoir un petit aperçu de ce lien encore très fort entre amour et vin dans la tradition chrétienne orthodoxe en Bulgarie, où j'ai assisté à une cérémonie de bénédiction de la vigne le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, jour où les Bulgares célèbrent encore à la fois l'amour et le vin. Mais ici, à Cana de Galilée, au moment opportun, c'est-à-dire maintenant, le vin manque. Il manque la joie, il manque l'amour. Et peut-être que c'est comme ça que tu te sens, toi aussi, en ce moment. La joie manque peut-être cruellement à ta vie ou dans la vie d'autres personnes auxquelles tu penses, proches ou lointaines, dans ce monde si complexe et anxiogène où, oui, parler de fête et de joie peut sembler parfois presque indécent. Et la mère de Jésus l'a bien constaté quand elle lui dit qu'ils ne tiennent pas de vin près d'eux. « Ne vois-tu pas qu'il leur manque la joie, qu'il nous manque la joie ?» Un cri qui pourrait être le nôtre encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends pour intervenir, pour faire voir cette humanité heureuse ? Et la réponse de Jésus, comme c'est souvent le cas chez Jean, peut sembler bien décalé, littéralement, quoi entre moi et toi, ce qui donnerait grosso modo en français de quoi tu te mêles. Mais ce qu'on pourrait aussi traduire par qui a-t-il entre moi et toi pour que tu aies déjà compris que la fête commence et que oui, c'est la joie que je viens apporter. Vivre avec Jésus, c'est une fête qui commence maintenant. C'est ce que nous dit ce commencement-là des signes à Cana, en Galilée. Et c'est vrai pour toi aussi, aujourd'hui, même si la joie te manque en ce moment. Parce que c'est une fête où tu peux aussi venir avec toutes tes eaux troubles. Parce que cette fête qui commence maintenant est aussi une fête qui vient en son temps, comme Jésus le rappelle, à sa mère et avec elle à tout son peuple. Mon heure ne vient pas encore. Et quand Jésus parle de son heure chez Jean, il parle toujours de l'heure de sa mort, qu'il appelle aussi l'heure de sa gloire. La gloire étant en hébreu ce qui a du poids. Cette fête qui commence maintenant, cette fête à laquelle nous sommes tous invités est tout sauf une fête. Ça tombera pas plus bas. C'est tout sauf une fête légère, superficielle, une réunion d'imbéciles heureux. Mais c'est une fête qui porte en elle tout le poids, toute la gravité de la vie et de la mort de Jésus, de nos vies et de nos morts. Une fête où le vin se mêle au sang. Une fête à vivre dans le maintenant de chaque jour, dans la douleur comme dans la joie. Mais aussi une fête toujours à venir, une fête qui ne vient pas encore, comme en chemin de printemps ou d'été, et qui implique peut-être simplement, mais parfois si difficilement de notre part, de ne pas trop nous en mêler, mais d'appuyer notre confiance sur Jésus. Vivre avec Jésus, c'est une fête qui commence maintenant et qui vient en son temps. Et cette fête qui vient en son temps est aussi une fête qui nous rend vivants dans nos eaux troubles. À peine Jésus, à peine Jésus a-t-il répondu à sa mère que son heure ne vient pas encore, que déjà il dit au serviteur à la noce de remplir les 6 vases en pierre qui se trouvent là pour la purification des Judéens et qui contiennent chacune 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres d'eau. Donc beaucoup plus que ce qu'on a ici. En tout, 600 litres d'eau donc. En détail absolument burlesque, dans le cadre d'un mariage où l'eau devait juste servir à se laver les mains. Et au fait, ces 6 vases en pierre contenant chacun 100 litres d'eau et ces Judéens qui se purifient renvoient clairement au temple de Jérusalem et à tous ceux qui y œuvrent. Ceux-là même qui provoqueront la colère de Jésus dans un épisode qui, chez Jean, suit directement les noces de Cana, celui de l'expulsion des marchands du temple. Et ces 600 litres d'eau représentent en fait toutes les prescriptions religieuses de pureté pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu. Et aujourd'hui, ces 600 litres d'eau trouble pourraient être, je crois, tous nos efforts et nos marchandages pour nous sentir acceptés et dignes d'amour. Peut-être aussi les eaux stagnantes qui noient l'amour et la joie que peuvent être nos principes et nos traditions, y compris d'Église. Et face à ces 600 litres d'eau trouble, Jésus va en fait redire tout le poids de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Et on est en fait ici au cœur de cette croyance folle qui fait la spécificité du christianisme. Dieu n'attend rien de nous, aucune eau de sacrifice pour qu'on puisse s'approcher de nous, de lui. Au contraire, c'est lui qui, en la personne de Jésus, s'approche de nous et vient partager les eaux troubles de notre humanité, nos souffrances, notre condition de mortel, et qui les fait vraiment venir à la vie, comme vin, comme le sang de ce Messie, qui n'est pas un Messie triomphant, mais en serviteur souffrant, qui par sa mort nous donne sa vie, et nous signifie que rien dans nos eaux troubles ne l'empêche de s'approcher de nous, ne nous empêche de nous approcher de lui, face à nos efforts, nos marchandages et nos principes débordent le don gratuit de Dieu. Et ces 600 litres d'eau trouble ne sont pas du tout jetés. Au contraire, ils sont portés maintenant, dans le maintenant de cette fête, où elles ont aussi toute leur place au maître du banquet, qui, lorsqu'il les goûte, constate qu'elles sont vraiment venues à la vie comme vin, ce qui le fait crier le nom du nouveau marié. Un nouveau marié qui, paradoxalement, comme tous les personnages de ce récit, à part Jésus, n'a en fait pas de nom. Et on pourrait imaginer ici que c'est aussi Jésus lui-même, le maître du banquet, face à cette joie inattendue et dont il ignore la provenance, ne peut que s'écrier dans un cri, ne peut que vraiment reconnaître dans un cri, c'est toi, au fait, le nouveau marié, le Messie qui fait voir l'humanité heureuse, c'est toi. Alors peut-être que tu as toi aussi déjà expérimenté cette joie inattendue, cette rencontre qui t'a rendu vivant, même au cœur de moments très difficiles. Et je voudrais saluer ici mon amie espagnole, Maria Ilna, parce que, qui est parmi nous aujourd'hui, parce que notre rencontre il y a un peu plus de 20 ans m'a vraiment fait venir à la vie avec cette joie dont... au départ, comme le maître du banquet, je ne savais pas d'où elle était, mais que j'ai pu peu à peu relier, entre autres grâce au témoignage fidèle de Maria Ilna, à cette fête à la fois grave et belle qu'est la vie avec Jésus. Je crois que le jubilé, les 50 ans de notre Église qu'on a fêté il y a 2 semaines, a vraiment aussi fait... venir à la vie en nous ce vin de la joie partagée. Et d'ailleurs, dans le feu de l'action, Rebecca s'est exclamée qu'elle avait l'impression d'être en mariage. Et comme la bouteille de 1976 qui a été gagnée par Dominique, on peut avoir la confiance que ce vin restera intact jusqu'à maintenant, et en particulier en cette période où nous nous apprêtons à cheminer son pasteur salarié à temps plein. Intact jusqu'à maintenant aussi le vin de la joie communautaire vécu il y a quelques mois autour d'un mariage dans un cadre bien différent de celui de Cana en Galilée, le mariage de Théa et Quissel dans les Vosges enneigées, dont le souvenir rafraîchissant nous fait du bien aujourd'hui aussi. Et puis, il y a peu, j'ai eu l'occasion aussi de goûter à ce vin de la joie partagée à travers un festival de poésie où le soin apporté à chaque lecture, chaque rencontre, chaque repas était vraiment un acte d'amour et de joyeuse liberté. Et je voudrais vous lire ici quelques mots du poète Christian Bobin qui décrit très bien, je trouve, cette eau vraiment venue à la vie comme vin dans le maintenant, dans le moment opportun. Cette fête aussi, où le vin se mêle au sang. Voilà ce qu'il écrit. Le seul fait d'avoir éprouvé la pointe même du vivant donne de la joie. Pourtant, savoir qu'on est vivant, c'est savoir qu'on est voué à être broyé et qu'on va disparaître. Mais paradoxalement, cette fleur même de l'instant, cette haute conscience brûlante de la vie passagère est en accès au plus éternel et donne une paix qui ensuite demeure par-dessous tous les accidents de la vie. Vivre avec Jésus, c'est une fête qui nous rend vivants dans nos eaux troubles. Et cette fête qui nous rend vivants dans nos eaux troubles est enfin une fête où nous sommes invités à croire et à créer. Comme je vous le disais, aucun des personnages de ce récit, à part Jésus, n'est nommé. Ce qui nous montre d'abord le caractère central de Jésus, c'est tout est vraiment centré sur qui il est, sur ce qu'il vient vivre et nous inviter à vivre, mais ce qui nous invite aussi à pouvoir nous identifier, nous aussi, tour à tour, à chacun des personnages, pour à leur suite à la fois croire, appuyer notre confiance sur Jésus et créer, improviser avec lui cette joie et cet amour dans nos vies. Comme la mère de Jésus, nous pouvons oser l'interpeller quand la joie manque dans notre entourage et même avoir cette audace de croire malgré un silence ou une réponse apparemment négative de sa part, que la joie peut revenir et qu'une situation impossible peut se débloquer. Être cet oiseau qui annonce l'aube par son chant. Nous sommes, nous aussi, ses disciples, appelés vers la noce avec lui. Des disciples qui ont un rôle très, très discret dans ce récit. Jean nous dit simplement ensuite qu'ils appuient leur confiance sur Jésus. Une invitation pour nous aussi à croire encore aujourd'hui. Alors que les serviteurs, eux, nous invitent à créer. En écho à cette phrase que leur adresse la mère de Jésus, ce qu'il vous dirait, faites-le. Et ce verbe faire, poeio, en grec, qui a d'ailleurs donné indirectement poésie en français, est extrêmement courant dans le Nouveau Testament, mais renvoie au fait d'être créatif, d'être co-créateur avec Jésus. Jésus qui lui aussi fait des signes. Et c'est exactement ce que font les serviteurs, qui remplissent d'eau les cuves, qui écopent toutes ces eaux troubles, et puis qui les portent au maître du banquet. Et contrairement au maître du banquet, les serviteurs voient d'où vient cette eau vraiment venue à la vie, comme vin, cette joie qu'ils ont contribué à créer. Nous aussi, par un sourire, un regard, un mot, un geste d'encouragement, une oreille prête à écouter. Nous pouvons contribuer à créer cette joie là où elle manque autour de nous. Je crois qu'on est tous aussi parfois dans la situation du maître du banquet. Et dans le cadre du culte, je dirais que c'est le président, donc Alex, aujourd'hui. Et peut-être que tu as pu expérimenter toi aussi qu'il se passe quelque chose au culte quand nous nous réunissons tous ensemble en présence de Jésus, qui dépasse largement tout ce que tu as pu préparer pour ta présidence, comme un amour qui déborde. Tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de notre jubilé ont pu, sous la bienveillante coordination du maître du banquet Dominique, qui est finalement sans une goutte de pluie et sans trop de soleil non plus, ont pu aussi, je pense, expérimenter cet amour et cette joie qui dépassait de loin tout ce que chacun avait pu apporter. Et puis peut-être que tu penses à un événement ou l'autre de ta vie où par une mystérieuse combinaison de bonne volonté et de circonstances, la sauce a pris ou l'eau est vraiment venue à la vie comme vin. Des disciples, des serviteurs et des servantes, des responsables de banquets, des personnes prêtes à faire naître la joie et l'amour. Je crois qu'il y en a beaucoup ici, beaucoup dans cette église, alors que nous nous apprêtons à vivre ensemble en temps neuf, sans pasteur, salarié, à temps plein, mais en présence de Jésus, le fiancé. Celui avec qui la vie est une fête, qui commence maintenant et qui vient en son temps. Celui avec qui la vie est une fête qui nous rend vivants dans nos eaux troubles. Celui avec qui la vie est une fête où nous sommes invités à croire et à créer. Et je t'encourage vraiment toi aussi aujourd'hui à appuyer ta confiance sur lui, mais aussi à faire ce qu'il te dirait, à oser répondre à l'appel, même surprenant, qu'il pourrait avoir pour toi dans cette église ou dans ta vie en général. Et que rien ni personne ne vienne en toi gâcher la fête. Je vous invite à la prière.